Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 31, un week-end à Taipei. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et aujourd'hui j'accueille dans l'émission la très sympathique Anaïk Lenette avec qui on va parler de la ville de Taipei à Taïwan. Alors on a déjà parlé de Taïwan il y a quelques épisodes de cela sous forme d'introduction, mais aujourd'hui on va mettre l'accent sur la ville de Taipei que Anaïk connaît bien puisqu'elle y a vécu et puis elle apprécie beaucoup cette ville et au fil du temps elle a développé un itinéraire pour les gens qui aimeraient la visiter. Donc elle va nous en faire partager le contenu aujourd'hui sous forme de visite guidée et on commence d'une façon un peu original puisque Anaïk a enregistré quelques sons pris sur place à Taipei pour l'occasion de cette interview et on va commencer, ça ne s'invente pas, par le bruit bien caractéristique du camion poubelle de la ville. Bienvenue à Taipei. Eh bien, salut Anaïk, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Bonsoir Romain.
Eh bien, écoute, ça me fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans l'émission. Surtout qu'en fait, tu m'as contacté spontanément par email, un gentil email qui m'a voilà, fait plaisir parce que tu m'as proposé de participer à l'émission pour parler de Taipei.
Oui.
Qui est une ville que tu connais très bien parce que tu y as vécu il y a encore pas longtemps. Et donc, tu es passionné par cette ville et ça tombe très bien parce qu'on a fait l'introduction avec Olivier de Save d'Avis. Il y a quelques épisodes de cela sur Taïwan, qui n'est pas le pays qu'on connaît le mieux en Asie. Donc là, c'est bien parce qu'on va approfondir un peu le sujet et on va parler de Taipei. Alors bon, avant de voilà, commencer vraiment à parler de ce que tu aimes là-bas et puis de tout ce que tu as à nous conseiller à faire, est-ce que tu peux t'introduire en deux minutes, dire voilà, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à Taipei ?
Pas de problème. Donc je m'appelle Anaïk Lenette et j'ai 26 ans et je suis originaire de la région parisienne, même si mon prénom est un peu plus à l'ouest, sur les côtes bretonnes. Il vient des côtes bretonnes. Donc je traîne quand même en voyage avec moi mon drapeau du Guenadu pour revendiquer mes origines bretonnes.
D'accord.
Et donc voilà, ça fait effectivement, j'ai passé un an et demi à Taipei il y a peu. Et j'ai décidé de partir à Taipei pour des raisons professionnelles, mais ça remonte, mon amour pour l'Asie remonte à il y a 4 ans, quand j'ai décidé de partir en échange universitaire à Singapour, où là j'ai pu un peu barouder en Asie du Sud-Est, découvrir notamment la Malaisie, le Vietnam, le Laos, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'Asie que je ne connaissais pas avant, et du coup j'ai cherché à Après avoir fini mes études, j'ai cherché à repartir en Asie à tout prix et donc chercher différentes opportunités professionnelles. Et il se trouve qu'il y en a une qui s'est présentée à Taïwan que je ne connaissais pas du tout avant de partir. Je dois être honnête, je ne suis même pas sûre que j'étais capable de le situer sur une carte. Mais du coup, j'ai eu cette opportunité qui me permettait aussi de découvrir un peu le monde chinois sans être dans cette grande Chine, mais plutôt sur une petite île. Et donc, j'y suis partie et voilà, je viens d'achever un an et demi à Taipei.
D'accord, c'est intéressant. Bah, écoute, t'es pas la seule hein, à être tombée amoureux de l'Asie après quelques séjours ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'Asie est faite pour eux, qui voyagent et qui découvrent un peu des pays autour. Donc là, Singapour, c'est vrai que c'est idéal pour ça, hein, pour rayonner un petit peu en Asie du Sud-Est et faire des week-ends ou des petits voyages. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça au début juste pour voilà, des voyages. Et puis après, qu'ils se prennent un amour incroyable pour l'Asie et qu'ils veulent s'installer. Et bon, bah, c'était mon cas. Hein. Je connais ça. Donc toi, c'était à part Singapour et puis l'Asie du Sud-Est et puis Taïwan. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en parler dans l'émission ?
Donc, comme je disais, j'ai vécu un an et demi à Taïwan et la dimension de Taïwan fait que c'est assez facile de s'y déplacer à droite à gauche sur des week-ends et d'aller faire plein d'activités différentes. Et donc vraiment, j'ai découvert Taïwan en profondeur pendant un an et demi parce que j'ai aussi eu l'occasion de recevoir du monde. Et donc effectivement, après que tu aies fait un épisode d'introduction sur l'île dans sa globalité, comme j'avais vécu à Taipei, alors que Olivier, lui, vit à Kaohsiung, je me suis dit que ça serait intéressant d'approfondir la partie Taipei. Surtout que c'est une ville pour laquelle on peut facilement passer 4-5 jours à la découvrir, donc sur des longs week-ends si on vit en Asie, ou alors en introduction à Lille si on vient pour des plus longues vacances. Et vraiment, j'ai adoré vivre là-bas. C'était une découverte au quotidien en se baladant dans la ville. Et donc, j'avais vraiment envie de partager cette ville si peu connue des Français, mais des gens en dehors de l'Asie en général.
Ouais, non, c'est une super idée. C'est vrai que quand on parle des villes en Asie à découvrir, tout le monde va penser à Hong Kong, bon, qui est un territoire un peu spécial en Chine, mais qui est quand même aussi une ville à part entière. Tokyo, Shanghai, voilà, des villes vraiment, ou Bangkok, des villes vraiment des icônes en Asie. Mais on pense vraiment quasiment jamais à Taipei. Et à tort, parce que c'est vrai que c'est une ville intéressante, qu'il y a un mix de modernité et d'anciens vraiment intéressante. Donc, on va parler de ça. Et la bonne nouvelle, c'est que tu nous as concocté un petit programme, parce que tu l'as dit, tu as vécu là-bas. Et je crois que t'as accueilli pas mal de gens pendant que t'as vécu là-bas, donc la famille, des amis. Et à force de leur faire visiter Taipei, tu en as fait un programme sur mesure pour sur les routes de l'Asie. On le mettra dans les notes de l'émission sur le site. Donc, on va le dérouler, ce programme. On va se laisser guider. Et on va commencer. Donc, c'est un programme en 3 jours. Hein.
Oui, exactement. Après, il y aura des petits extras si on veut y passer un peu plus de temps. Mais globalement, pour voir l'essentiel de la ville et se laisser porter un peu par son ambiance, il faut au moins y consacrer 3 jours.
Bon, c'est super. Alors, on va commencer par le premier jour de ces 3 jours. Voilà, on vient d'arriver à Taïwan. Certainement, on est arrivé à Taipei, à l'aéroport. On est allé à son hôtel. On a passé une bonne nuit pour se reposer du décalage horaire. Qu'est-ce qu'on fait le matin du premier jour, pour commencer?
Du coup, le matin du premier jour, déjà, je pense que c'est sympa d'aller prendre un petit déjeuner traditionnel taïwanais. Donc, le petit déjeuner traditionnel taïwanais, il faut éviter de le prendre à l'hôtel, mais plus faire comme la plupart des habitants de Taipei, en chemin, sur le chemin de là où on se rend. Donc, généralement, ça peut être dans les petites supérettes qui sont les 7-Eleven ou les Family Mart qu'on retrouve à tous les coins de rue. Mmh. Faut savoir que Taïwan a la plus grosse concentration de supérettes par habitant. Et même, ça peut être dans une même rue, la même chaîne de supérettes peut se retrouver à deux rues d'écart. Donc voilà, et puis on peut acheter un baozi, qui sont ces beignets fourrés à la viande. C'est très souvent ça, ce qu'ils vont manger le matin. Ou on peut acheter ils sont très influencés par le Japon aussi, donc on peut acheter ces triangles de riz entourés d'algues qui s'appellent des onigiri, et qui sont aussi fourrés à divers poissons ou viandes. Et après, on a le vrai petit déjeuner traditionnel chinois, puisque l'essentiel de la cuisine taïwanaise vient quand même de Chine, où on peut prendre ces beignets frits qui sont comme des churros, mais moins consistants, et qu'on va tremper dans du lait de soja sucré. Donc ça, c'est vraiment le petit déjeuner traditionnel taïwanais. Mmh. Vraiment très très bon. Et puis après, il faut peut-être se mettre en route pour les premières visites.
Oui.
Et donc, comme tu l'évoquais, Taipei, c'est vraiment un mix de modernité et de tradition. Donc, on va pouvoir le voir tout au long en se déplaçant dans la ville. Et ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par le quartier de Wanhua, qui est au sud-ouest de la ville, qui est vraiment le vieux quartier de Taipei. Parce qu'il faut savoir que Taipei, avant, était beaucoup plus petit, puisque maintenant, c'est une grosse ville de 2,5 millions d'habitants à peu près. Mais avant, c'était beaucoup plus petit, et le centre historique de Taipei est vraiment sur le sud-ouest de la ville. Et donc, dans ce vieux quartier de Wanhua, qui est vraiment très traditionnel, qui est un des quartiers quand même les plus pauvres de Taipei aussi, on va pouvoir se balader et voir les marchés traditionnels, donc qui ressemblent à pas mal de marchés traditionnels d'Asie, qui sont toujours le petit côté exotique quand on vient de France. Et après, on va pouvoir visiter le temple de Longshan, qui est le plus vieux temple de Taïwan, ouais, qui a été construit au milieu du XVIIIe siècle, quand la dynastie Qing est venue s'installer à Taïwan. Mmh. Donc voilà, c'est un temple bouddhiste et taoïste, mais qui est vraiment très très joli à voir, et où il y a vraiment une ambiance où les gens viennent constamment prier toute la journée, il est rempli. Si je peux faire la comparaison par rapport à la Chine, que j'ai pu visiter aussi, on peut observer dans les temples taïwanais une vraie ferveur, une vraie dévotion à la religion aussi, qui est moins forte, je pense, en Chine, à cause de tout ce que Mao a fait par la révolution culturelle. Mais du coup, voilà, on peut admirer cette ferveur et puis on peut observer tous les petits rituels qu'ils ont, notamment cette prière face aux divinités où ils se penchent 3 fois. Et on pourra observer facilement des gens qui jouent avec des croissants de lune rouges. Donc souvent, on en utilise 2. Et c'est pour trouver des réponses à toutes les questions qu'on peut avoir. Donc au début, ça va être des questions qui vont être liées au business, puisque les Taïwanais sont des hommes d'affaires et femmes d'affaires. Mais après, souvent, on voit les adolescentes aussi venir poser des questions sur leurs relations sentimentales et amicales. Et donc du coup, ces 2 croissants de lune, on va les jeter par terre, juste après avoir posé une question à laquelle la réponse peut être que oui ou non. Et donc, du coup, en les jetant par terre, en fonction de la position dans laquelle ils atterriront, ça voudrait dire oui ou non. Et au préalable, il faut s'être introduit face au dieu en disant son nom, sa date de naissance et son adresse, puisqu'il y a beaucoup de monde dans le temple, donc pour qu'ils sachent de qui vient la question, il faut s'introduire. Et donc, voilà, on lance 3 fois les blocs de suite par terre pour être sûr que la réponse est la bonne. Donc, pour le petit côté marrant, il y a une position qui veut dire oui, une position qui veut dire non, et une position où si les blocs atterrissent pas bien, c'est que les dieux rigolent, soit parce que la question est complètement délirante, soit parce que la personne est déjà censée connaître la réponse.
Et c'est pas un peut-être, quoi.
Non. Donc voilà. Donc après, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Hein.
Non, mais c'est vrai que les temples à Taïwan sont très vivants et c'est pas le cas partout. Les temples bouddhistes, il y a des temples qu'on vient voir uniquement parce qu'ils sont vieux et voilà que c'est un peu des monuments historique du pays, mais c'est vrai qu'à Taïwan, voilà, ils sont toujours remplis, il y a toujours du monde qui passe, il y a de la vie, ils sont vraiment fréquentés, utilisés, quoi. C'est pas juste des temples pour faire joli et qu'on vient voir en tant que curiosité touristique ou.
Oui, effectivement, on peut s'asseoir au moins facilement 1 demi-heure et observer juste la population qui vient faire ses offrandes, qui vient prier les ancêtres. Enfin, c'est vraiment un vrai lieu de vie qui est assez intéressant à voir.
D'accord. Alors tu nous emmènes où après?
Mais du coup, en tant qu'être dans ce quartier de Wanhua, je pense que c'est intéressant d'aller à la découverte de l'allée au serpent, qui est une vieille allée où historiquement on servait plein de plats à base de serpent, qui selon la médecine chinoise est quelque chose de bon pour la santé. Aujourd'hui, on retrouve encore juste 2 magasins qui peuvent faire essayer le set complet de produits à base de serpent. Donc ça va aller du shot de sang de serpent au steak de serpent, quelque chose comme ça. Donc s'il y en a qui veulent se lancer dans l'aventure, moi je ne l'ai pas fait. Je l'ai observé de loin. Mais on voit un gros serpent à l'entrée de ces différents magasins, donc c'est.
J'ai eu l'occasion de faire ça moi, au Vietnam, donc on amène le cobra, donc je sais pas si c'est des cobras là-bas, mais on amène des cobras donc devant la table hein, au restaurant par terre, et puis il y a quelqu'un qui l'excite un petit peu, et puis après bon bah il le tue devant nous, et effectivement ils extraient le sang, la bile et le cœur. Évidemment qu'il
Ouais.
bat encore, et il faut voilà mettre le cœur avec des baguettes dans un petit verre à shot, et il rajoute le sang dedans, et puis bah la personne qui on va dire convie les autres au dîner doit boire tout ça quoi. Donc ce que j'ai fait d'ailleurs plusieurs reprises, mais j'en ferai pas je pense, parce que apparemment en plus de ça bon le sang à la limite il y a pas vraiment de problème au niveau santé, mais la bile il faut pas trop en abuser parce que ça peut être dangereux, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est une expérience vraiment pour le coup voilà, vous aurez pas l'occasion de faire dans beaucoup de pays, et il y a le Vietnam, il y a Taïwan maintenant voilà, donc pour les aventureux on va dire hein.
Exactement. Mais à Taïwan, il y a plein de choses autres qu'on peut essayer qui sont déjà assez aventureuses, je trouve. Mais si vous voulez serpent, vous pouvez. Et du coup, voilà, on est dans ce vieux quartier de Taipei. On va pouvoir remonter un peu plus vers le nord, où alors là, on va changer complètement d'ambiance. puisque s'il y en a qui connaissent un peu Tokyo, on va tomber dans l'équivalent du Harajuku de Taipei, où vraiment là, c'est l'ambiance de jeunes qui aiment les mangas, qui sont fans de la culture japonaise. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que vraiment à Taïwan, on retrouve ce mélange entre culture chinoise et culture japonaise, notamment parce que les Japonais ont occupé Taïwan pendant une cinquantaine d'années, et que c'est peut-être un des seuls pays qui n'ont pas complètement ravagé par leur colonisation, mais ils ont plutôt aidé Taïwan à se développer. Et du coup, il n'y a pas de ressentiment vis-à-vis des Japonais, comme il peut y avoir en Chine, qui a été complètement détruite par les Japonais à une époque. Donc du coup, vraiment, la jeune population taïwanaise est assez fan du Japon, admire le Japon. Quand ils veulent partir en vacances, c'est au Japon. Il y a des Hello Kitty partout. Parce que tout ce qui est mignon est sacralisé par les jeunes à Taïwan. Donc ils ont des coques de téléphone portable qui sont énormes, plus grosses que le téléphone généralement, mais qui sont Hello Kitty, donc ça fait bien. Et donc voilà, donc du coup, on peut se balader dans ce quartier pour admirer un peu comment s'occupe la jeunesse taïwanaise.
C'est une bonne expérience à avoir. Donc je te laisse continuer. On a visité donc le quartier de Ximending, et je crois maintenant que pour nous, tu as encore un temple hein, à nous faire visiter.
Exactement, parce qu'après, donc des temples, il y en a autant que le type de religion que les populations chinoises et taïwanaises peuvent avoir, et donc du coup, on peut remonter encore plus au nord. Sur les temples de Confucius et le temple Baoan, qui sont deux temples qui sont côte à côte, pas forcément de la même époque, le temple de Baoan est plus vieux, mais qui sont des architectures complètement différentes, puisque sur le temple de Confucius, ça va être, Confucius prônait la simplicité, donc on va être sur une architecture beaucoup plus sobre, alors que le temple de Baoan est un temple de culte populaire taïwanais, où là, on va vraiment avoir beaucoup plus, on va avoir des figures de dragons sur des colonnes, enfin, qui est très très beau. Bon, souvent les temples à Taipei ont été reconstruits parce que ils datent souvent du XVIIIe siècle, mais ont été reconstruits parce que pas mal de choses ont été détruites quand les Japonais sont arrivés ou alors pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça reste quand même assez authentique. Il y a des parties qui sont encore authentiques. Ça fait pas complètement reconstruit pour faire Disneyland. Donc voilà, et puis si on continue toujours plus au nord, là on va déboucher sur un bâtiment qu'on va pouvoir observer de loin, qui est au bord de la rivière qui traverse Taipei, qui est la rivière Keelung. Mm-hmm. Et les premières fois que j'ai vu, j'étais absorbée par ce bâtiment, mais je savais pas du tout ce que c'était. Et il s'avère que ça s'appelle le Grand Hôtel, et ça a été construit quand Chiang Kai-shek, qui était à la tête du Kuomintang, est arrivé à Taïwan. Et suite à la guerre civile avec les communistes, il a installé son gouvernement du coup à Taipei, et il pensait qu'il n'y avait pas assez d'hôtels de luxe pour pouvoir accueillir les ambassadeurs étrangers. Et donc du coup, il a fait construire ce grand hôtel qui a commencé à être construit dans les années 50 et qui a fini dans les années 70 complètement. Et du coup, qui est un vrai bel hôtel d'inspiration d'architecture chinoise. Donc je recommande d'aller le voir. On n'est pas obligé d'y dormir, mais par contre on peut prendre un thé l'après-midi dans un des salons, et c'est vraiment très sympa.
Et il a servi à fond l'hôtel, enfin je veux dire, la capacité a été utilisée jusqu'au maximum, ou ils avaient surdimensionné le bâtiment?
Je pense que c'est un peu surdimensionné, mais il a servi toute une époque, à l'époque où c'était Taïwan qui était reconnu comme la vraie Chine et non pas la République populaire de Chine. Il a reçu quand même pas mal d'ambassadeurs américains ou d'autres pays, mais beaucoup américains. Et après, du coup, là, aujourd'hui, je pense pas qu'ils remplissent leur capacité, parce que une chambre d'hôtel doit tourner autour de 200 euros la nuit.
D'accord.
Donc, du coup, ça s'adresse plutôt. Et puis, il y a maintenant toutes les grandes chaînes d'hôtels de luxe qui sont implantées dans le centre-ville de Taipei, qui attirent aussi beaucoup de monde. Donc je pense qu'il est très grand par rapport au taux de remplissage maintenant, mais il est très beau.
D'accord. Bon, bah, c'est une particularité sympathique. Bon, là, on a fait une bonne journée, je pense, hein, avec tout ça. Ça fait, voilà, on a bien mal aux jambes et on va avoir envie de se restaurer un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire le soir de ce premier jour?
Bah, pour se restaurer, le meilleur moyen de se restaurer sur les soirées à Taïwan, c'est d'aller dans un des nombreux marchés de nuit. Donc, un des plus connus, c'est le marché de nuit de Shelin, qui est encore plus au nord si on continue notre route. Donc, effectivement, même si t'as mal aux jambes, il va falloir continuer un peu parce qu'à Taïwan, on mange en déambulant d'un stand à un autre. C'est comme ça, il faut se déplacer. Donc, les marchés de nuit, c'est vraiment des étalages de snacks à droite à gauche où on picore un étal et puis on va faire ses courses. On rentre avec sa brochette de poulet dans un magasin pour acheter des vêtements. Et puis après, on va aller acheter son thé, son bubble tea, comme on dit, qui sont les thés au lait à base de, avec des boules de tapioca à l'intérieur, qui commencent à se retrouver même un peu dans d'autres pays maintenant, mais qui sont originaires de Taïwan et dont les Taïwanais sont fans. Et donc voilà. Donc là, c'est important. On va pouvoir goûter quelques plats clés de la gastronomie taïwanaise. Donc, comme l'omelette aux huîtres, par exemple, qui est un peu choquant pour nous Français, vu la façon dont on déguste les huîtres. Mais donc là, c'est des huîtres qu'on fait frire, sur lesquelles on casse un œuf. Et voilà, donc c'est assez particulier en goût et en texture. Après, on va pouvoir goûter aussi un des plats phares de Taïwan, ça va être le tofu qui pue. Littéralement, le plat s'appelle Stinky Tofu. Donc c'est juste un tofu qui a macéré pendant quelques heures ou journées dans une sauce particulière qui lui donne une odeur très très forte. Le goût est moins fort, mais l'odeur est très très forte.
Le tofu, en plus, c'est pas quelque chose que tout le monde aime. Donc, si en plus il pue, je pense que ça va pas en tenter beaucoup.
Oui, après ça fait partie de l'expérience.
Ouais, bien sûr.
Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Et puis ils ont vraiment plein de snacks comme ça. Ils ont des saucisses de riz qu'ils ouvrent en deux pour mettre à l'intérieur une autre saucisse, cette fois de porc. Et puis après, on peut l'agrémenter de la sauce qu'on veut. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'essais à faire en termes de gastronomie de rue. Donc après, par contre, ils ont aussi beaucoup de stands de fruits. Et alors là, ils sont vraiment excellents. Je pense que j'ai mangé les meilleures mangues que j'ai jamais mangées à Taïwan. Ils ont après d'autres fruits qui sont un peu plus marrons et qu'on retrouve moins, dont j'ai pas forcément les noms en français. J'ai au moins les noms anglais qui sont la wax apple ou le Buddha fruit parce qu'ils ressemblent à une tête de Bouddha. Mais donc, et puis, pour alléger un peu le tout à la fin, la mangue, on peut la déguster sur une mango ice qui est vraiment un des desserts de Taïwan où en fait c'est de la glace pilée, mais vraiment de la glace pilée nature, qui monte en montagne et il pose des morceaux de mangue dessus, une espèce de sauce sucrée. Et donc voilà, c'est le dessert de marché de nuit qu'il faudrait goûter.
D'accord, tu confirmes ce qu'avait dit Olivier dans l'épisode précédent, que les Taïwanais, voilà, sont fous de bouffe et mangent tout le temps, grignotent tout le temps dans ces marchés-là.
Exactement. Et puis dans ces marchés-là, donc là c'est pour le soir, mais ils grignotent toute la journée. Ils vont s'arrêter, comme on disait, dans les supérettes, ils vont acheter un petit truc. Il y a des magasins, des petits restaurants, des bouibouis ou des grands restaurants, vraiment à tous les coins de rue ou même dans une rue, ça remplit toutes les devantures, quoi. Donc c'est vraiment, si, pour le coup, je pense qu'on ne peut pas se retrouver dans un désert où il n'y a rien à manger à
Oui.
Taïwan. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis l'expérience est toujours sympa quand on rentre dans ces supérettes. On est toujours accueilli par un petit Huanin Guanlin qui veut dire bienvenue pour dépenser votre argent dans ma supérette. Et qui, je pense, vient d'influence japonaise encore une fois où il y a cette même chose au Japon. On est souvent accueilli par un petit mot qui veut dire bienvenue en gros. La nourriture est quelque chose qui est vraiment pas cher à Taïwan. Le niveau de vie déjà, on est quand même dans une ville, Taipei, qui est assez développée, mais qui a un niveau de vie qui est pas du tout comparable en termes de dépenses à Singapour, Hong Kong ou Shanghai. Je pense qu'on peut diviser les prix par quatre
Ouais, à
au
l'aise.
niveau à l'aise entre ces grandes villes d'Asie et Taipei.
Bon, bah, c'était une bonne première journée, placée sous le signe plutôt, voilà, de la visite de temples, plutôt sur l'histoire un petit peu de Taipei. Pour la deuxième journée, qu'est-ce que tu nous concoctes? Où c'est que tu nous emmènes?
Du coup, pour la deuxième journée, on va repartir du centre de Taipei, mais on va se décaler plutôt cette fois vers l'est et on va aller voir et du moderne et encore un peu d'histoire, mais pas sur le côté temple, mais plutôt sur l'arrivée, le développement de Taipei et de Taïwan sous le Kuomintang. Donc, comme on disait, comme ça avait déjà été expliqué par Olivier, en 1949, le Kuomintang, qui étaient les nationalistes chinois, sont venus s'installer à Taïwan suite à la défaite face aux communistes, avec pour ambition de récupérer ce qu'on appelle aujourd'hui la République populaire de Chine un jour ou l'autre, ce qu'ils n'ont pas fait. Et du coup, on va démarrer par le mémorial de Chiang Kai-shek, qui était du coup un général à la tête du Kuomintang quand ils sont venus à Taïwan et qui est mort en 1975. Et donc, quand il est décédé, il avait quand même fait beaucoup pour le développement de Taïwan, même si ses méthodes étaient un peu controversées. Donc, du coup, ils ont décidé d'ériger un mémorial en son honneur qui est énorme, mais vraiment en termes de dimension. Enfin, moi, ça m'a fait penser, bon, c'est plus pas les mêmes dimensions, mais au palais de Ceaușescu en Roumanie, mais c'est un peu mégalo, ça fait un peu mégalo. Mais quand on est face à ce truc-là, c'est assez impressionnant. Et par contre, on peut voir la relève de la garde qui est sympa à voir, qui a lieu toutes les heures. Et quand on se retourne, on peut monter les escaliers donc de ce grand mémorial. Et quand on se retourne, on a vu sur l'Opéra national et le Théâtre national, qui sont vraiment deux beaux bâtiments d'inspiration chinoise aussi. Sur cette place du mémorial, le week-end, il y a tout le temps des jeunes qui viennent faire leurs répétitions de danse. Enfin, les jeunes taïwanais sont très actifs en termes de sport et donc ils viennent là aussi. C'est un lieu de vie aussi, donc c'est très sympa. Puis ça abrite un musée. Donc pour ceux qui sont intéressés par le côté historique de comment le Kuomintang s'est installé à Taïwan, c'est assez intéressant. Il est assez bien fait, le musée qui est à l'intérieur de ce mémorial. Donc voilà, et comme on va se déplacer vers l'est, comme je disais, on peut aller dans Yongkang Street, qui est à la station de métro Dongmen, ou qui est une rue assez prisée des touristes, notamment des touristes japonais et coréens, parce qu'il y a plein de restaurants et que c'est une des choses à faire. Et là, on va aller déjeuner, par exemple, dans la chaîne Din Tai Fung, qui est une des institutions taïwanaises qui existe maintenant dans d'autres villes asiatiques et dont la spécialité, c'est les xiaolongbao, qui avait été évoqué par Aurélie à Shanghai, puisque c'est une spécialité de Shanghai à la base. Mais cette chaîne Din Tai Fung est une chaîne taïwanaise. Et donc là, à Dongmen, on va avoir le restaurant original, le premier de cette chaîne. Et alors, c'est vraiment succulent. Aurélie l'avait déjà évoqué dans ton podcast sur Shanghai. C'est des raviolis, donc avec une pâte très très fine, avec du porc à l'intérieur. Les originaux sont avec du porc. Ils en font aussi à la truffe si on veut, si on a des goûts un peu plus luxueux. Mais et où il y a vraiment toute une notice explicative dans le restaurant pour expliquer comment les manger. Il faut les mettre dans la cuillère, les percer, en faire sortir le jus et mettre du gingembre et déguster tout ça d'un coup, et c'est vraiment succulent. Donc je recommande de les essayer.
Ouais, non, c'est une institution à Din Tai Fung. C'est vrai qu'à Singapour, il y en a plein, par exemple. J'y vais assez régulièrement. On amène toujours donc, des gens quand on a de la famille ou des amis de passage. On les amène souvent là-bas parce que c'est très, très bon. Et effectivement, c'est à Taipei qu'il y a l'original. Et j'ai un collègue justement qui m'a dit récemment que quand même, il y avait une petite différence. C'était un peu meilleur à l'original, apparemment, par rapport à Singapour, même si bon, maintenant, c'est devenu quand même une chaîne assez répandue, hein. Ils sont même en Indonésie, je crois, et je me demande même s'il n'y a pas des branches aux États-Unis ou même en Europe.
En Europe, je suis pas sûre, mais je crois au moins aux États-Unis, en Australie, quelque chose comme ça.
Voilà, donc c'est vraiment devenu quelque chose de connu mondialement, et effectivement, je pense qu'il faut assez inratable. C'est inratable d'aller goûter à ça parce que c'est pas le type de nourriture qu'on a l'habitude de manger, et la manière dont c'est servi, l'expérience aussi de voir tous les dumplings se faire donc derrière les vitres. En général, on voit les cuisiniers faire la pâte, etc. C'est vraiment intéressant.
C'est ça qui est super, comme tu le dis, c'est qu'on a accès ou vu sur les cuisines, au moins sur la partie où ils font ces xiaolongbao, et c'est vraiment marrant à observer. Et puis, du coup, voilà, bien rassasiée du déjeuner, puisque généralement, il y a vraiment le principe de toute façon de manger à l'asiatique, c'est de commander plein de plats et de tout partager. Donc, du coup, généralement, on sort bien repu. Et donc, on va pouvoir marcher encore plus vers l'est dans le parc de Sun Yat-sen, qui est un joli parc. Et donc, Sun Yat-sen, qui est père fondateur de la République de Chine. Et là, on va commencer à avoir une vue sur le symbole de Taipei, qui est la tour 101. Donc voilà, on va pouvoir d'abord l'admirer d'un côté du parc de Sun Yat-sen, qu'on peut monter en haut pour la visiter. Je le recommande pas forcément, puisque une fois qu'on est tout en haut, au 101e étage, effectivement, comme c'est la seule tour haute de Taipei, ça écrase tout le reste de la ville, mais on voit... enfin. C'est plus sympa, je trouve, de monter à d'autres endroits pour avoir la 101 dans le champ, la 101 dans le champ de vue. Donc, mais on peut visiter en haut. Sinon, si on veut monter un petit peu, il faut savoir qu'il y a un Starbucks au 35e étage. Donc, ça permet déjà de monter quand même un tiers de la tour. Et il faut juste en bas demander à accéder au Starbucks et puis ils nous font monter et ça coûtera que la consommation d'un café.
Non, mais c'est vrai que souvent dans les tours, quand on est tout en haut, en plus, il y a les vitres sont très épaisses, on est un peu éloigné des vitres parce qu'il y a des barrières de vent de protection. Et finalement, bon, on a la vue à 360, mais c'est pas comme si on était à l'air libre, effectivement, à voir vraiment la ville. On a quand même une grosse vitre devant nous, des barrières, donc c'est pas aussi impressionnant qu'être à l'air libre. Et je dis ça parce que je fais un petit, oui, je fais une petite allusion à ce que tu as mis dans le jour 3. Je vois un nom que je connais, un parc où tu peux monter assez en hauteur, un lieu naturel où là pour le coup on a vraiment une vue sur Taïwan qui est sur Taipei pardon, qui est vraiment vraiment intéressante. Donc on va y revenir, mais effectivement la tour 101, moi je l'avais faite, je trouvais ça bon, c'est toujours sympa d'aller en haut d'une tour, mais effectivement souvent de voir le monument plutôt que d'y être, c'est plus intéressant en fait. Donc ouais, je suis assez d'accord.
Mais du coup, dans le programme, je t'emmenais juste après au meilleur spot pour admirer cette tour. Pas forcément pour admirer l'ensemble de la ville, mais au moins cette tour qui est la montagne de l'éléphant, qu'ils appellent Xiangshan. Et donc du coup, là, on peut y aller en fin d'après-midi. Bon, j'ai quand même à peu près 400 escaliers à monter. C'est un petit peu fatigant, mais c'est largement faisable. Et donc, on peut y aller en fin d'après-midi, comme ça, on voit la scène de jour. Mais il suffit d'attendre pas très longtemps pour que la nuit tombe et qu'on voit toutes les lumières de la ville s'allumer. Et donc, on peut comme ça aussi avoir la scène de nuit. Et c'est vraiment très, très beau. Donc là, on a en premier plan d'abord la tour 101, mais aussi les quelques autres grands immeubles qu'on peut voir à Taipei. Et puis, on voit le reste de la ville. Donc, je recommande de finir la journée là-dessus.
D'accord.
Et d'éventuellement aller goûter au deuxième plat national après le stinky tofu. Ce sera les nouilles au bœuf. Il y a même une compétition des meilleurs nouilles au bœuf de l'île de Taïwan une fois par an. Et donc, moi, je conseillerais un petit restaurant qui est pas très loin justement de cette montagne. C'était la première chose que j'avais demandé aux différents Taïwanais que j'avais rencontrés. Où est-ce que je peux manger les meilleurs nouilles au bœuf? Et on m'a donné plusieurs fois cette réponse. Donc, du coup, pourtant, c'est un petit restaurant qui paye pas de mine et qui fait pas très touristique, comme peut l'être Din Tai Fung quand on parlait de restaurant tout à l'heure. Et puis, si c'est un samedi soir et que tu veux sortir un petit peu, il y a un quartier très animé le soir, qui est le quartier de Dunhua, qui est vraiment au centre-ville, où là, les boutiques, de toute façon, ouvrent pas avant 14h la journée, donc restent ouvertes jusqu'à minuit, 1h. Donc, c'est plein de petites boutiques qui font comme des petits cubes vitrés les uns après les autres. Donc, si tu veux faire un peu de shopping, et puis aussi, il y a de nombreux bars à whisky à Taipei, il faut savoir, puisque Taïwan produit son propre whisky sous la marque Kavalan. On retrouve encore une fois la culture japonaise de ce côté-là. Donc, je te conseillerais d'essayer.
D'accord. Ouais, non, mais je pense qu'il faut effectivement passer une bonne soirée aussi à Taipei parce que c'est une ville où la nightlife, hein, comme on dit, est quand même assez active, donc il faut en profiter, ouais, clairement. Hein.
Exactement. Après, si tu veux aller jusqu'au bout de la nuit, il n'y aura que l'embarras du choix.
Très bien, et eh ben écoute, voilà, 2 jours déjà bien remplis, donc pour les gens qui veulent y aller que sur un week-end, eh ben ils ont déjà de quoi faire, mais il y en a encore à faire, donc finalement ça devient un week-end prolongé cette histoire. Donc tu nous as préparé un itinéraire, je pense assez tranquille pour le dernier jour, hein. On va aller se balader un petit peu dans des parcs, etc. Donc raconte-nous un petit peu le. Alors non, la première étape peut-être un peu moins relax parce qu'on va faire un musée. Et puis c'est pas n'importe lequel, c'est le musée. On l'avait évoqué, hein, dans l'épisode avec Olivier. Donc raconte-nous un petit peu ce qu'on peut y voir.
Donc, en fait, ce musée est un des musées avec la plus importante collection d'art chinois au monde, puisque, en fait, pour la petite histoire, tous ces arts, donc c'est des calligraphies, des peintures, des ouvrages anciens, ou alors du bronze, du jade, de la céramique. Enfin voilà, toutes ces œuvres étaient à la base dans le palais de la Cité Interdite, donc à Pékin. Mais quand les Japonais ont commencé à arriver, à envahir dans les années 30 la Chine, ils ont commencé à déplacer toutes ces œuvres d'abord vers le sud de la Chine, donc elles ont pas mal voyagé. Et puis après, par contre, quand il y a eu l'insurrection communiste et que Chiang Kai-shek a décidé de partir à Taïwan, il a décidé aussi de protéger toutes ses œuvres et de les emmener avec lui. Donc du coup, c'est pour ça qu'on retrouve l'essentiel de la collection. Il en reste encore à Pékin, dans le musée du Palais à Pékin, mais on retrouve une grosse, grosse collection dans ce musée national à Taipei. Et donc là, c'est vraiment merveilleux, même quand on n'est pas très intéressé par les musées, on ne peut que tomber sous le charme de ce musée-là. Je recommande vivement, on peut même faire des visites guidées en français qui durent 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais ça permet de faire un tour rapide et puis après de retourner par soi-même dans les différentes pièces. Mais on voyage vraiment dans le temps des grandes dynasties chinoises. Et c'est vraiment, vraiment très, très beau.
Ouais, on peut aller passionné d'histoire et d'art asiatique, d'art chinois, c'est vrai, ce sera incontournable. La visite d'un musée, ça prend en général assez de temps, donc là, je pense qu'on en a pour la matinée. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour le déjeuner?
Alors, pour le déjeuner, je te propose d'aller manger une crêpe aux oignons verts et à l'omelette. C'est une espèce de pancake assez épaisse, mais qui est aussi assez répandue à Taïwan. Et puis, tant qu'à faire, fais en sorte, pendant ton trajet dans Taipei, de tout le temps bien garder tes tickets de caisse. Parce que figure-toi que tous les tickets de caisse à Taïwan sont des billets de loterie. Donc, du coup, tous les 2 mois, il faut dépouiller tous ces tickets de caisse, puisque tu verras que sur ces tickets de caisse, il y a des numéros. Et c'est un moyen pour le gouvernement, en fait, de contrôler les magasins, les restaurants qui déclarent bien leurs impôts. C'est quelque chose comme ça. Mais du coup, toi, ça te permet peut-être de devenir riche. Bon, j'ai gagné à chaque fois que 5 euros, mais 5 euros tous les 2 mois, c'est toujours sympa.
C'est un lunch ou un ouais un, quelques trucs à grignoter dans un boui-boui, quoi.
Exactement. Je ne sais pas si c'est très rentable puisqu'il faut passer au moins un quart d'heure à trier les tickets de caisse. Mais donc voilà. Donc du coup, figure-toi que ton ticket de caisse est un bien précieux. Et sinon, souvent, tu verras à la sortie des supérettes, des boîtes pour laisser ton ticket de caisse si toi t'en veux pas, puisqu'après, s'ils sont gagnants, ils les donnent à des associations, ou alors je sais que les jeunes Taïwanais aiment bien donner ça à leurs grands-parents pour les occuper.
D'accord. Ça a l'air assez unique à Taïwan, ça. J'ai jamais entendu
Ouais.
parler de choses pareilles en
Non,
Asie.
non, c'est assez surprenant, mais c'est marrant. Et donc voilà, donc par contre, après, je t'emmène faire une après-midi beaucoup plus nature. On va s'éloigner un peu, on va monter vers vraiment le nord, puisque Taipei, c'est vraiment dans une cuvette entourée de montagnes, traversée de plusieurs rivières et entourée de montagnes. Donc, on peut s'échapper très facilement dans la nature. Et on peut même, bon, après, en poussant un peu plus loin, en 1 heure et demie de train, on est à la plage. Mais donc là, on va rester dans un grand parc qui est le parc national de Yangmingshan, qui est au nord de Taipei. Et il y a un visitor center qui indique très bien différentes marches qu'on peut faire dans le parc. Et après, si tu veux jouer un peu les aventuriers, je te propose d'aller te baigner dans les sources d'eau chaude les plus sympas pour moi de Taïwan et de Taipei. Parce qu'on peut aller faire les sources d'eau chaude qui sont à Beto, sinon qui sont les sources d'eau chaude les plus connues de Taipei. Où là, c'est vraiment dans un cadre organisé où il faut payer son petit ticket. On peut aller soit faire dans les grands hôtels, soit dans les sources d'eau chaude publiques en payant son entrée. Sinon, dans ce parc de Yanmingshan, on peut accéder à des sources d'eau chaude qui sont un peu cachées. Bon, apparemment, on peut recevoir une belle amende aussi si on se fait prendre par la police, parce que j'espère, je souhaite à personne. Mais je connais beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont fait, à qui il n'est jamais rien arrivé. Là, on est au milieu de la végétation. Il y a une cascade qui descend et du coup, qui descend dans plusieurs bassins qui ont été plus ou moins aménagés, mais ça fait vraiment sauvage. Donc, faut faire attention, puisque moi, quand j'y étais allée, je me disais, oh, il y a quand même pas mal de monde, je vais aller dans les bassins qui sont plus hauts, puisque là, il y a personne. Mais évidemment, il y avait personne, puisque l'eau était à 50 degrés à cet endroit.
Ouais, d'accord.
Donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un gros coup de cœur, ces sources d'eau chaude un petit peu cachées dans Yanmingshan. Et puis, après, se balader dans, et comme tu le disais, on peut avoir une belle vue de Taipei.
Ouais, on domine totalement la ville, hein. On est vraiment en hauteur et loin, et on voit toute la ville.
Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment très sympa. Et du coup, bah après, il va être temps de revenir vers la ville puisque ça va être la fin de journée. Et donc là, je te propose d'aller dîner au marché aux poissons, qui est pas très connu, qui est pas très connu des touristes, qui l'est de la population locale, mais qui est au bord de la rivière Keelung, qui est cette rivière qui traverse Taipei à l'horizontale. Et du coup, on va vraiment avoir du poisson succulent, digne, et pas mal de poissons faits à la japonaise, en sushi, en sashimi. Et c'est vraiment digne des très bons restaurants qu'on peut trouver au Japon, puisque le poisson est vraiment très frais et vraiment pas cher, surtout. C'est ça qui est sympa aussi.
Ouais.
Donc du coup, c'était à la base un marché aux poissons où vraiment ils vendaient du poisson frais. Et puis, ils ont commencé à installer ces petits restaurants ou même un petit supermarché où on peut aller acheter juste sa barquette de sushi frais, s'installer et déguster ça. Donc, voilà. Voilà ma dernière recommandation.
Bon, bah, c'est un beau programme. Hein. Ça fait 3 jours bien rempli et terminé sur une jolie note. Voilà, un dîner au marché aux poissons. C'est très sympa. Bah, ça fait beaucoup de choses, Anaïk. Hein. Merci beaucoup pour la visite. Alors il y a quelques petits extras que tu as mis dans ton programme, donc j'invite tout le monde qui nous écoute à aller les voir. Il y a quelques petits bonus. Donc ton programme, il sera disponible sur le site de Sur les routes de l'Asie, hein, sur la page de l'épisode. Donc tout le monde pourra aller le télécharger. C'est un fichier PDF très sympa, bien mis en page avec des petits plans, etc. Donc voilà, ça sera votre allié parfait si vous allez visiter Taipei. C'est vrai que voilà, comme on disait au début, hein, c'est pas la ville la plus que les gens connaissent le plus ou que les gens ont le plus envie de découvrir comme ça spontanément en Asie. Mais on vient de voir en fait que on peut y passer un grand week-end prolongé de 3 jours et puis voir plein de choses, voir des temples, se balader dans des parcs, aller voir des tours, goûter à la cuisine taïwanaise. Enfin, c'est très 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 rempli, très très varié. Donc c'est très sympa. Merci. Merci Anaïk. Est-ce que tu nous parles de Hong Kong en ce moment actuellement, mais j'imagine que tu vas retourner bientôt et que voilà, Taïwan pour toi ça reste, t'as créé un lien avec cette ville de Taipei et puis Taïwan en général. Donc voilà, quand c'est que tu y retournes toi-même?
Effectivement, j'y retourne dans 2 semaines, figure-toi, puisque je suis maintenant, comme tu le disais, installée à Hong Kong, mais je garde vraiment un très très bon souvenir de Taipei. Des attaches fortes. Enfin, c'est une ville où il y a c'est le bouillon dynamique des grandes villes asiatiques. Mais c'est aussi, je compare à Hong Kong, c'est vraiment une ville de province. Ça ressemble à une ville de province parce que c'est ce que on dit souvent. Les Hongkongais vont à Taipei, qui est seulement à 2 heures de vol, pour se ressourcer, se reposer de l'agitation. Donc voilà, j'y retourne dans 2 semaines avec grand plaisir et puis je prends toujours un plaisir fou à me balader dans ces petites rues. J'irai pourquoi pas faire un karaoké avec mes amis taïwanais puisque c'est la grande mode le karaoké. Bon, c'est une passion en Asie en général. Mais vraiment à Taipei, j'ai découvert ces espèces d'hôtels qui où en fait chaque chambre est une salle de karaoké juste avec une télé, un énorme canapé. Et puis un téléphone qui permet de commander à manger, à boire. Et généralement, on y passe on commence à 20h, mais on n'en sort pas avant 2h du matin. Ce que je pouvais pas m'imaginer faire avant de venir vivre à Taïwan. karaoké est devenu une vraie passion.
Ouais, dans le karaoké, beaucoup de gens sont, bah, quand on nous écoute d'Europe ou d'ailleurs, et quand on n'est pas venu en Asie, on peut penser, oulala, mais c'est ringard, le karaoké, personne ne veut faire ça. Mais effectivement, essayez, si vous avez l'occasion de faire une soirée karaoké, entre amis ou entre collègues, si vous venez là pour le business, peu importe, mais si vous sentez qu'il y a un bon, voilà, dans la soirée, qu'il y a un bon feeling avec les gens avec qui vous êtes, vraiment essayez d'aller au karaoké. Ça peut paraître, voilà, encore une fois, un peu ringard quand on n'a jamais essayé, mais ouais, c'est assez mémorable, hein, les soirées qu'on y passe.
Ouais, généralement, oui. Donc voilà. Et puis, si je peux donner un dernier conseil, mais là, c'est si vraiment on a du temps, c'est d'aller aussi chez le coiffeur à Taipei. Puisque, non, mais le lavage de cheveux dure généralement 1 heure, inclut des massages de la tête, et c'est le paradis. Le paradis pour pas très cher.
Là, on se fait bichonner pour pas grand-chose et on reste 1 heure. Ouais, c'est vrai que c'est assez unique ça aussi. Bon bah c'est un bon dernier petit conseil. Et ben écoute Anaïk, encore une fois, ben, merci beaucoup, hein. C'était vraiment agréable de faire cette visite en ta compagnie. Et avant de se dire au revoir, on parlait là un petit peu avant de préparer l'émission et tu m'as parlé d'un projet que je trouve intéressant et je voulais que tu en parles, voilà, une petite minute avant de conclure l'émission. Parce que tu as, alors c'est en lien avec le monde chinois, puisque tu as une amie, je crois, qui développe un projet, hein, de livres franco-chinois. Donc dis-nous-en un peu plus.
Effectivement, donc du coup, en habitant à Taïwan, je me suis mis à apprendre le chinois parce que ils parlent pas très bien l'anglais là-bas, c'est ce qu'il faut savoir si on y va. Et du coup, ça devient indispensable au bout d'un moment d'avoir quelques petites clés. Et donc avec cette amie qui s'appelle Marie Baucher, on partageait une vraie passion parce qu'en plus, quand on commence à vraiment se plonger dans le chinois, on apprend beaucoup sur la culture chinoise aussi. Et faut savoir qu'à Taïwan, ils utilisent encore le chinois traditionnel en écriture, donc c'est vraiment très intéressant de voir comment les caractères sont construits. Et donc Marie se lance dans l'écriture seule pour enfants, déjà à la base en français, et elle va sortir un livre de 5 nouvelles sont et en français et en chinois, donc en chinois traditionnel, et les illustres, donc qui sont des livres pour enfants. Hein. Et les illustrations sont faites par Mai Ueda, qui est une de ses amies qui sort d'une école de beaux-arts à Paris-Cergy. Et donc voilà, qui voulait se joindre à Marie sur ce projet pour les enfants français qui veulent apprendre le chinois, les enfants taïwanais qui veulent apprendre le français. Et c'est une offre qui n'existe pas beaucoup sur le marché pour le moment. Et donc voilà, vous pouvez suivre l'actualité de Marie sur le groupe Facebook qui s'appelle Ça ressemble à mes rêves, qui sera le nom du livre en français. En chinois, c'est Xiang Meng Yian. Et donc voilà, donc vous pouvez suivre ce groupe-là sur Facebook et elle postera très rapidement des informations sur la sortie du livre, la date de sortie du livre et les endroits où on peut le trouver.
D'accord, eh ben écoute, avec plaisir, tu me donneras le lien, hein, de la page Facebook et puis je la mettrai pareil sur la page de l'émission pour qu'on puisse voilà, retrouver tout ça. Bon bah voilà, Naïk, encore une fois, merci beaucoup. Ça c'était très sympa. Et puis bah avant de se dire au revoir, je te laisse le mot de la fin.
Eh ben, je souhaite à tout le monde un excellent voyage à Taipei si vous avez l'occasion d'y aller, puisque comme je le disais au début, je suis très très charmée par cette ville. Et en général, un bon voyage sur les routes de l'Asie.
Super. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt, Anaï.
Merci.
Et encore un grand merci à Anaïk de nous avoir guidés dans la ville de Taipei. C'était un bel itinéraire de 3 jours qui, j'espère, vous inspirera pour votre prochain voyage. Et sachez que tous les détails de l'itinéraire, avec les noms évoqués, sont à retrouver dans un très joli document PDF qu'Anaïk nous a concocté et qui est à retrouver sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com/31. Je remercie aussi Anaïk de m'avoir spontanément proposé de participer à l'émission pour partager sa connaissance et son intérêt sur le sujet. Et si vous aussi, vous avez une connaissance particulière sur un sujet propre à l'Asie, n'hésitez pas à m'envoyer un email romain@surlesroutesdelasie.com ou depuis le site web directement sur la page contact. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou bien sur Facebook ou Twitter ou encore iTunes, et c'est de loin ce que j'apprécierais le plus, car vous savez que laisser un commentaire sur le répertoire de podcasts d'Apple est la meilleure façon pour moi de faire connaître l'émission. Aujourd'hui, je cite Chat151 qui m'a laissé 5 étoiles en disant Merci pour tout, tes émissions sont géniales, je ne m'en lasse pas, fin du commentaire. Eh bien, merci beaucoup à toi. Et vous le savez, si vous m'envoyez un petit mot, eh bien, je serai ravi de vous citer dans l'émission. On se quitte comme on a commencé avec un enregistrement, mais cette fois c'est par une chanson populaire de karaoké qu'Anaïk m'a fait passer. C'est vrai que ça manque un peu de musique sur les routes de l'Asie, donc on ne va pas bouder notre plaisir. A très bientôt pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.
你是我的花朵，我要抱抱你，一路到长头。哦，你是我的花朵，就算你身边很多小石头。哦，你是我的花朵，我要爱着你，不眠也不休。